On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
Qu'est-ce que tu dis?
On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
C'est eux qui vous trouvent, hein?
Toute notre vie est un problème.
Et à qui la faute, tu crois?
Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairoy. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère.
Il faut travailler à réduire globalement la violence qui reste invisible, en tout cas à partir des lieux centraux ou dominants, celle qui s'exerce au jour le jour, pêle-mêle, dans les familles, les usines, les ateliers, les commissariats, les prisons, ou même les hôpitaux et les écoles, et qui est le produit de la violence inerte des structures économiques et sociales et des mécanismes impitoyables qui contribuent à les reproduire.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, camarades auditeurs de Radio Canu. Vous écoutez, c'est un choix, ma foi, pour le moins judicieux, habile, l'émission Angle Mort, émission de critique sociale et de sciences sociales critiques. Avec au menu de ce soir, eh bien, on poursuit en fait l'émission qu'on avait commencé, la dernière émission qui était il y a deux semaines, dimanche il y a deux semaines. Une émission sur le thème situation politique, comment reprendre la main. Enfin, c'est en tout cas le thème d'une rencontre qui avait été organisée par la société Louise Michel le 26 juin 2014, donc il y a à peu près un an et demi. Et à cette occasion, on avait deux intervenants, deux sociologues, Éric Fassin et Luc Boltanski. Et donc là, il y a deux semaines, on a écouté l'intervention d'Éric Fassin, professeur de sciences politiques à l'université Paris 8. Et ce soir, eh bien, on écoute la deuxième intervention, celle de Luc Boltanski, sociologue de l'EHESS, si je ne m'abuse. Je passe ici sur sa trajectoire intellectuelle très vite. Il a été l'élève puis un collaborateur on ne peut plus brillant du sociologue Pierre Bourdieu avant de faire un petit revirement théorique et de vont, on va dire, créer, non, inventer, je ne sais pas si c'est le mot, mais le courant de la sociologie pragmatique en France. Il a été une des figures marquantes de la sociologie pragmatique en France. Et plus récemment, il a tenté d'ouvrir des passerelles entre ces deux courants de pensée que sont la sociologie, on va dire, bourdieusienne et la sociologie, on va dire, pragmatique. Donc oui, un rappel, la première conférence a eu lieu, la première intervention a diffusé il y a 2 semaines, jeudi, parce que Boltanski fait quelques références, mais bon, ça n'empêche pas de comprendre son propos général. Et puis de manière générale, je rappelle que toutes nos émissions sont réécoutées, enfin on peut les réécouter sur notre blog hébergé par le site radiocanu.org. Donc il faut aller sur le site radiocanu.org et puis se balader un petit peu, et puis vous verrez qu'il y a un onglet, le blog des émissions, et puis dans le blog des émissions, et bien, il y a toute une liste d'émissions, et il y a la nôtre, Angle Mort, qui vous renvoie sur le blog, sur lequel vous trouvez toutes nos anciennes émissions depuis le début. Donc aussi rappel, cette conférence avait eu pour occasion en fait la parution en 2014 de 2 petits livres, du genre plutôt de l'essai politique plutôt que de l'enquête sociologique pure et dure, hein, même si ces deux livres s'appuient sur des analyses sociologiques. Donc le premier était le livre d'Éric Fassin intitulé Gauche, l'avenir d'une illusion, et l'autre c'est le livre de Luc Boltanski et Arnaud Esquéré, intitulé quant à lui Vers l'extrême extension des domaines de la droite. Et donc ces deux livres parus en 2014 qui reviennent sur, on va dire, l'hégémonie idéologique actuelle des thèses de droite extrême, on pourrait dire aussi sur une forme de droitisation du champ politique et du monde intellectuel, et tente d'apporter quelques pistes pour renverser la vapeur, même si ici c'est peut-être plus en retrait. Donc pour souligner à quel point ça reste d'actualité, deux petites citations du livre de Boltanski Esquéré. On peut lire « L'initiative appartient aujourd'hui entièrement à une droite fascinée ou médusée par ses extrêmes. Chacun en vient à se déplacer constamment, de façon souvent erratique, comme par crainte d'être dépassé par d'autres plus rapides, toujours au plus près d'une issue vers l'extrême, c'est-à-dire maintenant vers l'extrême droite. » La montée en puissance d'un Front National rajeuni et parvenu à s'ancrer localement stimule la dérive panique vers la droite, sorte de sauve-qui-peut qui accroît la déroute qu'il voudrait retarder. Ce parti en tire profit puisqu'il peut alors l'interpréter comme un ralliement général à ses thèses, devenu la normalité entre guillemets même, jusqu'à s'offrir le luxe de se doter à sa droite d'une droite plus extrême encore qui officiellement peut être tenue à distance tout en étant souvent de fait pleinement intégrée. Et pour commencer, à notre habitude, en fait, je vais commencer par un petit peu de musique pour s'installer un petit peu. Et là-dessus, j'ai envie de faire une petite dédicace, puisque je vais passer Corrigan Fest avec le titre « Je suis fils » et que je dédicace à Natacha, qui fut en son temps la voix de cette émission et que j'attends impatiemment son retour dans Angle Mort. Avant de devenir plus récemment le baryton de la chorale des canulars, et donc celle-ci lui est dédicacée. Il faut juste attendre un petit peu parce qu'il faut que je la cale. Et voilà, c'est parti sur Radio Canu, émission Angle Mort.
L'une est pour les curés et l'autre est pour les rois. Si j'aime mon pays, la terre qui m'a vu naître, je ne veux pas de Dieu, je ne veux pas de maître. Je ne veux pas de Dieu, je ne veux pas de maître.
Allez, c'était donc Corrigan Fest avec le titre Je suis fils. Et on commence cette intervention de Luc Boltanski à la société Louise Michel, datée du 26 juin 2014. Intervention assez rapide, hein, elle dure 25 minutes. Et puis on se retrouve après pour un petit peu de musique, voire de commentaires de ma part.
Au point d'ivoire, clair dans le noir, clé en main, claustro clandestin, les kleps au train. J'ai fait de l'angle mort de ma vie une métaphore.
Avec une idée au fond centrale, qui est celle de situation politique et d'événements. Et des nôtres. Alors on a écrit cette petite chose, hein, quand on me dit c'est un livre, sinon c'est un tract. Qui voulait d'abord être un article, puis ça a un peu grossi, avec l'intention de renouer avec quelque chose qui n'est ni de la sociologie ni de l'humeur, mais qui est ce qu'on appelait autrefois l'analyse engagée, un peu comme on en trouvait dans les temps modernes, etc. Avec une idée au fond centrale, qui est celle de situation politique et d'événements, et que la politique, ce sont des situations, c'est une idée présentiste de la politique, que ce sont des situations complexes, composites, dont des hommes politiques ou des opérateurs politiques peuvent chercher à s'emparer ou chercher à orienter dans un sens ou dans un autre. Et donc l'idée de départ, c'était que la situation avait très profondément changé au cours, disons, des deux dernières, et surtout de la dernière année, et qu'il y avait un déficit d'analyse par rapport à cette situation et à ces événements. Et que un homme politique anglais, quand on demandait qu'est-ce que c'est la politique, je crois que répondait politics is events. Moi je suis tout à fait d'accord avec cette définition, la politique c'est des événements. Donc il faut essayer de comprendre comment se structurent les événements. Et donc on essaie de décrire un ensemble de déplacements qui vont tous dans le sens de la droite, mais qui ne sont pas nécessairement coordonnées et que les politiques cherchent à mobiliser et à coordonner. Notamment, évidemment, le mariage pour tous et la manif pour tous, et donc la repolitisation du catholicisme réactionnaire et la fin, d'ailleurs, du pratiquement la fin du christianisme des gauches, qui avait été très important dans les années, notamment dans les Jacobiens, contre les Jacobiens. Nous parlons également d'un autre, nous avons en tête également une autre chose qui pour nous est très importante, puisque l'optique est beaucoup moins large que celle d'Éric, elle porte moins sur l'ensemble du monde politique, qui est une sourde dérive à droite du monde intellectuel et des problématiques qui deviennent considérées comme importantes dans le monde intellectuel, comme par exemple la nation qui revient, y compris chez les philosophes, dans tout ce plus, etc. Il y a d'ailleurs une idée derrière, c'est que un défaut de la gauche, et également d'ailleurs des analystes de la droite, du Front National, etc., est d'avoir sous-estimé les intellectuels de droite, les traditions intellectuelles de droite. Il y a de très grandes traditions intellectuelles à droite, et il y a des grands mouvements intellectuels à droite, et il y a un grand nombre d'intellectuels de droite qui ont des intentions revanchardes, très fortes. Et il faut connaître ce qu'ils veulent et ce qu'ils disent. Je vous en donnerai un exemple peut-être tout à l'heure, si j'ai le temps. Alors, un autre... Donc, c'est pas directement sur le Front National. Au fond, l'idée qu'on avait derrière la tête, c'est que le Front National surfe sur un mouvement qui largement le dépasse et qu'il essaie de coordonner et de mobiliser. Un grand nombre des thèmes de la droite actuelle viennent de bien au-delà du Front National. Ce sont des thèmes qui ont été développés dans l'Action française entre les années 1880 et 1950, surtout après ça, il y a eu une crise sur l'Action française. Et qui sont des thèmes qui étaient un peu endormis, si vous voulez, surtout après l'épisode fasciste des années 30-45, et qui maintenant sont réactivés, souvent d'ailleurs par des gens qui ne sauraient pas bien faire leur généalogie depuis l'Action française. Mais ça a été un mouvement extrêmement important, y compris un mouvement très important parmi les intellectuels. Un grand nombre de grands intellectuels de la première moitié du XXe siècle appartenaient ou avaient appartenu à l'Action française, qui d'ailleurs, comme le Front National aujourd'hui, ou comme l'Extrême droite aujourd'hui, se présentait comme anti-système. C'est pour ça que je n'utilise jamais le mot système pour parler de la situation politique, se présentait comme anti-système et comme étant le lieu de la libre pensée contre la pensée unique. Je n'emploie jamais non plus le terme de pensée unique, d'ailleurs, qui vient de la droite, qui vient de l'extrême droite. Alors, un second point qui me semble important, c'est la question de paquet cadeau, d'amalgame qui est fait actuellement dans l'extrême droite. Je pense qu'un changement très important dans l'extrême droite a été que l'extrême droite a repris à la gauche et a repris à son passé la critique du, entre guillemets, néolibéralisme. Il m'est arrivé d'utiliser le terme, je pense maintenant ne plus l'utiliser, je pense qu'il faut utiliser le terme de capitalisme. Parce que une grande partie du nouveau discours de l'extrême droite qui se veut antilibéral, a été transporté depuis le discours de gauche, intermondialiste, etc., par des auteurs, comme par exemple, là on n'a cité aucun nom, considérant qu'au fond, il fallait être structuraliste, et que si c'était pas Paul, ça serait Jacques, etc. Et on pourrait en citer quelques-uns. Ils ont par exemple un auteur comme Michéa, par exemple, qui vient de l'extrême gauche, a transporté, est parti de la critique du néolibéralisme, et puis de là, il est monté à la critique du libéralisme et il a transporté ça dans l'argumentaire de l'extrême droite. Alors l'extrême droite a toujours été anti-libérale, hein, depuis la Révolution française, depuis Burke, si je puis dire. L'extrême droite est avant tout anti-libérale. Et donc je pense que c'est un problème pour la gauche de se recentrer sur l'anti-libéralisme à la façon dont le fait l'extrême droite. Personnellement, je pense que Marx était un libéral, d'une certaine façon. Marx n'a jamais repris une critique qui était très fréquente en son temps, qui était le libéralisme est mauvais, il faut revenir aux communautés traditionnelles où il y avait une vraie solidarité, où il y avait une vraie entente, où il y avait une vraie morale, etc. Un discours qu'on retrouve aujourd'hui complètement, qu'on trouve chez Carlyle, par exemple. Alors que, au fond, ce que dit Marx, c'est qu'il part du libéralisme et il dit qu'il faut pousser le libéralisme jusqu'à l'autre contrainte, qui n'est pas la contrainte juridique, mais la contrainte économique. Bon, ferme la parenthèse. Et donc, si vous voulez, je pense que la gauche devrait d'abord réfléchir sur son héritage libéral. Je pense que, je dis ça à peu près chaque fois que je viens ici à Louise Michel, je pense que nous sommes tous des héritiers de la pensée libérale du XVIIe siècle dans ce qu'elle avait de plus radical, et que c'est très important de le savoir, et que si on jette ça à la poubelle, on va se retrouver complètement paralysé. Et donc, si vous voulez, l'extrême droite, qui, je pense, a beaucoup appris des 30 années de fonctionnement du GRES, hein, à partir du milieu des années 70 jusqu'à aujourd'hui. L'extrême droite, maintenant, a réarmé sur un discours fortement anti-libéral. Alors, je pense que ça pose un vrai problème pour la gauche, dans laquelle je ne passe pas le Parti Socialiste, et je suis là absolument d'accord avec Éric. Ça pose un tel problème parce que après le creux critique des années 90, au fond la gauche s'est reconstituée dans la critique du néolibéralisme. Tout à fait juste titre, je pense qu'il vaut mieux dire la critique du capitalisme. Quand j'ai écrit avec F. Chapello le nouvel esprit du capitalisme, je n'ai pas appelé le nouvel esprit du libéralisme. Par ailleurs, je reprends maintenant un travail justement avec Arnaud Esquiré, également sur les formes actuelles du capitalisme. Bon. Elle s'est reconstruite comme ça. Mais qu'est-ce que fait la gauche quand l'extrême droite reprend le même thème, même si, bien sûr, on peut penser à juste titre que si l'extrême droite était au pouvoir, elle ne mettrait pas en pratique une critique du capitalisme. Alors, un autre point qui me semble important, c'est la question, disons, le lien entre la montée de l'extrême droite et les dégâts économiques causé actuellement par le capitalisme. Je ne nie pas évidemment ce lien qui est répété sans arrêt par les analystes du Front National, du vote FN, etc. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres analyses qui seront tout à fait, à mon avis, pertinentes, qui montrent que ça n'est pas du tout, ce n'est pas uniquement dans les fractions les plus atteintes par les changements du capitalisme que se recrute le Front National, mais que le Front National se recrute également dans une fraction de ce que l'on peut appeler la bourgeoisie que nous appelons la classe patrimoniale. Derrière, il y a une analyse dans notre livre qui est au centre du travail que nous faisons actuellement à Louis Kéré et moi, une analyse qui est juste esquissée dans ce petit opuscule. Qui est qu'on assiste actuellement en France à un phénomène très important, qui est un déplacement d'une partie du capitalisme depuis l'économie industrielle, avec une désindustrialisation qui entraîne du chômage, qui entraîne de la précarité, etc., et qui peut avoir un effet de pousser un certain nombre de gens à voter Front National, mais également un autre déplacement qui est l'accroissement d'une sphère économique qui n'est pas décrite, parce que la comptabilité nationale, dont les cadres datent des années 50, ne l'avait pas à cette époque-là identifiée, qui concerne l'art, la culture, les festivals, les produits de luxe, les produits alimentaires de qualité et la patrimonialisation d'un ensemble de lieux comme les plus beaux villages de France, comme les centres-villes, etc. C'est un phénomène très important. qui va de pair avec l'accroissement du tourisme. Comme chacun d'entre vous le sait, il y a 80 millions d'arrivées touristes en France. C'est la première destination mondiale. Et vous avez maintenant des agences spécialisées qui s'occupent du branding des nations et du branding des régions. Et vous avez un certain nombre de gens qui, par exemple, avaient une petite maison dans un village, qui n'étaient pas forcément des gens venus de la grande bourgeoisie, hein, qui ont vu le prix de cette maison multiplié par 5, par 10, par 15, par 20, et qui peuvent la louer, qui peuvent la vendre, qui ne sont pas contre les étrangers s'ils sont très riches, mais qui sont certainement pour le maintien d'une forte identité nationale et contre l'implantation d'étrangers pauvres, parce que si on construit un minaret à côté de leur belle église romane qui a fait monter le prix de leur capitale de façon énorme, eh bien ça va simplement être une perte de richesse très importante. Et donc je pense qu'il y a actuellement un problème qui n'est pas directement économique, qui est économique par l'intermédiaire de cette classe patrimoniale. Donc Piketty, d'ailleurs, dans son livre, je défends contre certains courants à gauche le livre de Piketty, qui je pense est très très important, parce que il n'est pas, comment dire, c'est pas un livre révolutionnaire, mais c'est un livre qui apporte un nombre très important d'éléments, de preuves, pour fonder quelque chose dont on avait le pressentiment, mais par rapport auquel on manquait d'éléments de preuve. Donc je pense que c'est un effet très important. Et donc vous avez maintenant la montée en puissance d'une classe patrimoniale, et vous avez d'autre part un accroissement très grand de gens dont je pense que les jeunes, il y a un certain nombre de jeunes ici devront faire partie, qui sont dans la sphère de l'économie culturelle, on va dire, en situation précaire, et qui, par certains côtés, constituent un nouveau prolétariat. Un nouveau prolétariat qui n'est pas industriel, mais qui est un prolétariat de cette économie de la mise en valeur culturelle et du branding de la nation, de la région, de l'art, etc. Et donc, si vous voulez, ça nous amène à deux points sur lesquels on insiste dans ce petit tract. Un premier point, c'est, qui a été très bien présenté par Eric, c'est la question du peuple. C'est que, comme vous le savez, le Front National, pour le coup, l'extrême droite, se réclame largement du peuple et de la défense du peuple. Mais quel peuple ? Alors, et considère que la gauche défend un faux peuple, un mauvais peuple, qui est le peuple des étrangers, des PD, des Gouines, des putes, des précaires, des assistés, etc., qui serait le mauvais peuple, contre un bon peuple, qui serait les hommes mariés, vivant dans des zones en déclin, ayant une famille, au chômage, etc. Alors ce thème des deux peuples est très ancien en France. Au XIXe siècle, vous aviez déjà, et dans toute la première moitié du XXe siècle, vous aviez deux peuples. La droite prétendait défendre un peuple, la culture française était populiste, populaire, se voulait populaire, se voulait un mouvement populaire, mais qui défendait le vrai peuple, qui était le peuple des paysans, des artisans, des marins, des pêcheurs, des soldats, et qui était considéré dans des termes, disons, vaguement égaliens, comme composé de vraies personnes, responsables, ayant une vraie individualité, etc. Contre le mauvais peuple, qui était le peuple des ouvriers des grandes concentrations industrielles, considérés comme dégénérés, menant une vie immorale, et corrompus par les idées socialistes et modernistes. Alors maintenant, ce peuple ouvrier ne fait plus peur, hein, parce qu'il a été détruit, largement défait, par les changements du capitalisme. Et donc, il peut être pris par l'extrême droite comme le bon peuple contre l'autre peuple qui va occuper la place du mauvais peuple. Alors, il y a un autre point sur lequel on n'a pas, c'est pas, je vous le dirai pas là-dessus, mais on a une ou deux pages là-dessus, qui est la question des bobos, des fameux bobos. qui est un terme comme celui de pensée unique qui a fait énormément de mal et qui était là et qui était réapproprié par l'extrême droite. Comme vous le savez, les bobos sont parmi les ennemis pour l'Action France, pour l'extrême droite et pour le Front National. Les bobos sont l'ennemi par excellence. Alors, ce qui est très intéressant chez les bobos, c'est que c'est un groupe complètement flou, évidemment. Personne ne pourrait dire quels sont les contours des bobos. Et je n'ai jamais vu quelqu'un qui puisse se déclarer bobo, c'est toujours l'autre. Mais j'ai vu beaucoup de gens, y compris dans des proches, disant « Ah oui, moi j'aime pas les bobos, ah oui, ah oui toi t'es un bobo, ah oui, tu parles comme un bobo, ah oui, etc. » Alors, ces fameux bobos, c'est dans une large mesure les jeunes précarisés travaillant dans l'industrie culturelle, auquel le Front National attribue le fait d'être une gauche caviar, d'être dans la bien-pensance, irresponsable, etc. Alors, et donc, si vous voulez, moi, j'ai pas de stratégie pour sortir de la situation actuelle, mais je pense qu'un premier point, c'est d'essayer quand même de faire des bonnes analyses et d'essayer de changer un petit peu les catégories et le vocabulaire qu'il y a dans la tête des gens qui sont de gauche, qui veulent être de gauche, et qui veulent la gauche, et qui n'aiment pas le Front National. Alors un point tout à fait central, c'est la question identitaire. La question identitaire occupe une place très importante dans le succès actuel de l'extrême droite, et à mon avis, d'autant plus importante que elle tend sans arrêt à déborder vers la gauche ou vers l'extrême gauche. Hein. Vous avez tout un ensemble de thèmes actuellement de la gauche ou de l'extrême gauche qui, de façon différente, vont faire appel à des communautés, des enracinements, des identités, de l'opposition. De l'opposition à tous les ennemis extérieurs ou intérieurs, de l'opposition à tous les aux États-Unis qui nous volent que du mal, de l'opposition aux pays émergents qui nous volent le travail, de l'opposition aux islamistes qui veulent détruire notre belle culture républicaine. Le républicanisme a également servi de pont entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Et donc je pense qu'il faut courageusement reprendre tous ces thèmes, et essayer de changer un petit peu quand même le cadre que nous avons en tête. Alors, je vais terminer par vous raconter un livre que j'ai lu le précédent week-end, parce que j'écoute toujours le samedi matin l'émission de Vitelpot, qui n'est pas nommée d'ailleurs dans ce livre, il n'y a aucun nom, mais qui est intéressante parce qu'elle offre un catalogue de la droite intellectuelle allant depuis l'extrême droite jusqu'à une droite un peu traditionnaliste, un peu classique, avec des débats qui sont le plus souvent des faux débats d'ailleurs, dans la mesure où les faux débats, non, mais disons, généralement la personnalité qui invite a invité quelqu'un avec qui elle est en accord contre un troisième avec qui elle est en accord, quoi. Et donc, le samedi matin, il y avait un homme qui s'appelle Hervé Juvin, qui se présente, qui n'est pas un universitaire, qui se présente comme un économiste, un genre d'économiste un peu philosophe, et qui présentait un livre qui s'appelle « La grande séparation ». Évidemment, en référence au thème du grand déplacement, du grand remplacement, pardon, qui est l'idée, qui est en train de faire beaucoup de chemin, hein, et pas seulement dans l'extrême droite, l'idée selon laquelle notre belle culture française serait menacée par la culture, je ne sais pas trop de quoi, d'ailleurs l'islam, les musulmans, les basanés, les djihadistes, tout ce que vous voulez, une espèce d'amalgame de tout ça. Et par exemple, j'ai entendu quelqu'un récemment, une bonne dame de la campagne, me dire « Oui, il paraît qu'on détruit partout des églises pour construire des mosquées. » Ce ne semble pas évident, mais bon.
Et donc, qu'est-ce que dit ce livre très bien fait de la grande séparation? Il dit, voilà, il prend appui énormément sur l'anthropologie, sur l'ethnologie. Il dit, comme l'a bien montré l'ethnologie, il y a des territoires, mais c'est aussi assez écologique. Sur ces territoires, il y a des peuples qui établissent un certain rapport avec la nature. Et ces peuples, ils ont une origine, ils ont une histoire, ils ont une race, ils ont une religion. Et tout va bien, il ne faut pas les hiérarchiser, si chacun reste sur son territoire. Mais si on les mélange, c'est la fin de la civilisation humaine. Alors tout ça est entrecoupé, évidemment, de très 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 importantes attaques contre le fameux néolibéralisme, contre l'américanisme, contre l'américanisme qui a produit un homme hors sol, contre l'homme enraciné. Alors c'est des vieilles idées maurassiennes, hein, mais c'est des vieilles idées maurassiennes reprises dans un autre langage, qui est, comme vous pouvez l'imaginer, extrêmement dangereux, avec l'idée, si on maintient chacune de ces collectivités dans son territoire, en le laissant avoir ses valeurs, le terme de valeur aussi, il faut l'analyser, ses valeurs et son histoire, eh bien il peut y avoir des relations diplomatiques, ou de bonne entente, ou ils peuvent se faire la guerre, c'est pas grave. Alors, je vous laisse méditer ces thèmes, mais je pense que sur tous ces différents thèmes, qui ne sont pas directement économiques, la gauche doit construire, prendre position et, par rapport à cette thème, reconstruire un autre discours et notamment renouer avec l'internationalisme.
Au départ des courts-circuits,
au croisement des contraires,
au carrefour des massacres,
au point d'impact des colères,
à contre-courant envers,
et contre toutes les muselières,
à la périphérie des champs,
au cœur des poudrières,
au départ des courts-circuits,
au croisement des contraires,
au carrefour des massacres,
au point d'impact des colères,
à contre-courant envers,
et contre toutes les muselières,
à la périphérie des champs,
au cœur des poudrières.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu, émission Angle Mort, émission de critique sociale et de sciences sociales critiques. On vient donc de s'écouter une intervention du sociologue Luc Boltanski qui a eu lieu il y a plus d'un an maintenant, qui a eu lieu à la Société Louise Michel, et sous le titre « Situation politique, comment reprendre la main ?» et qui s'appuie, cette intervention, une sorte de petit résumé, on va dire, d'un livre lui-même assez court, dont la lecture est assez simple et assez rapide, et qui est intitulé « Vers l'extrême, extension des domaines de la droite », et qui a été écrit en collaboration entre Luc Boltanski et un autre sociologue qui s'appelle Arnaud Esquerré. Avant peut-être de discuter peut-être quelques points de cette intervention, on se fait une pause musicale et je voulais vous passer Zep avec La gueule du patrimoine, c'est dans le thème.
Souvent vu comme mauvaise lors des bavures commises et sur qui pèse en temps de crise.
À droite, certains participants affichent de manière tranchée leurs convictions sur ce débat.
Je pense qu'il est plus qu'utile, qu'il est même indispensable, et qu'il est temps qu'on réagisse parce qu'on va se faire bouffer.
Par qui? Par quoi?
Par qui, par quoi? Il y a déjà 10 millions, hein? Mais il faut bien réfléchir. 10 millions que l'on paye à rien foutre.
Ça jase, on a fait le hella dans le village. Que vois-je? La Gaule est envahie par les sauvages. Outrage, on a fait criser tout le voisinage. En sortant les derbocas dans la salle de mariage, ils ont la rage de voir nos tronches dans les parages. On a assali la moquette, les murs et le carrelage. Semer la zizanie, foutu le feu à leur étage. Saloper leur paysage, on leur a fait un petit carnage. Sacrilège, y'a du hlel à la cantine, la charba dans la cuisine, des hijabs à la piscine et des jolis tapis de prière dans les usines. Ils ont tellement les nerfs qu'ils sont accro à l'aspirine, mais là c'est trop tard. On a passé la douane, on a passé la frontière. Reprends à Doliprane, c'est de la chanson française qui leur fait mal au crâne. Tu m'étonnes qui supporte plus nos coins. On a saboté la langue de Molière, démasqué le racisme de Voltaire. On a planté la tente, maintenant faudra s'y faire. Les nègres vous emmerdent, comme dirait Aimé Césaire. T'as vu le bazar, t'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec nos tronches de polygames. Ça chasse, y'a madame, y'a madame, alors grande dame. T'as vu la gueule du patrimoine, t'as vu le bazar. T'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec nos tronches de polygame. Ça jase, y'a madame, alors grand dame. T'as vu la gueule du patrimoine. Ils voulaient du folklore et de la danse du vent, de l'exotisme. Servi avec un thé à la menthe, des petites pâtisseries, des fatmas obéissantes. Bientôt site pour ramasser, nettoyer, torcher leur viande. Mais que dalle, le projet a capoté, le plan a mal tourné. Laisse-moi jubiler, ils sont tout pâles. On a cassé le gouvernail, aïe aïe aïe. On leur a foutu la pagaille. Tu croyais qu'on allait dire merci? Merci la France, merci Sarkozy. Toujours poli, wallah je suis intégré. Tu peux toujours courir pour faire de moi un bli, oui oui. T'as vu le bazar, t'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec nos tronches de polygame. Ça chasse, y'a madame, alors grand dame. T'as vu la gueule du patrimoine, t'as vu le bazar. T'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec nos tronches de polygame. Ça chasse, y'a madame, alors grand dame. T'as vu la gueule du patrimoine.
Sympa cette musique.
Merci, merci.
Le métissage, le brassage des cultures. Ces jeunes qui expriment leur colère, j'adore.
Ouais, c'est mignon, un petit beurre qui rappe sur de la musette. Vas-y, MC Cosette, fais-nous des chansonnettes. À toi le contestataire, à la bonne franquette. Symbole d'intégration, c'est du Zola en casquette. Vas-y, fais-nous chialer sur un air d'accordéon. Raconte-nous tes petites histoires d'enfants d'immigration. Raconte-nous les contrôles, les discriminations. Allez, réveille en nous un peu d'indignation.
D'habitude, j'aime pas le rap.
Ah bon?
Mais ce que j'aime chez vous, c'est que vous ne tombez ni dans la victimisation, ni dans les clichés. Et puis, quelle maîtrise de la langue française!
Va te faire mettre avec ta langue française. Des compliments, pour moi c'est de la foutaise. Que du blabla qui me fait perdre mon temps. Alors emballe tes bons points et tes encouragements dans ma zone d'expression populaire. Y'a que des petites gens et des bougnoules en colère. Des râleurs, des cassos, des criseurs et des brailleurs. Tu marches avec nous ou tu vas voir ailleurs. T'as vu le bazar, t'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec nos tronches de polygame. Ça chasse, y'a madame, alors grand dame. T'as vu la gueule du patrimoine, t'as vu le bazar. T'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec nos tronches de polygame. Ça chasse, y'a madame, alors grand dame. T'as vu la gueule du patrimoine, t'as vu le bazar. T'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec nos tronches de polygame. Ça chasse, y'a madame, alors grand dame. T'as vu la gueule du patrimoine, t'as vu le bazar. T'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec nos tronches de polygame. Ça chasse, y'a madame, alors grand dame. T'as vu la gueule du patrimoine.
Relevez mon adresse et mon place. Et arrêtez de me palper à la moindre occasion. Car à la base, ma peau n'est pas douée pour la métamorphose. Je cherche.
Toujours à l'écoute de Angle Mort sur Radio Canu. On vient de s'entendre le titre La gueule du patrimoine de Zep. Je voulais revenir un petit peu brièvement sur cette intervention de Luc Boltanski. Pas grand chose, parce que moi je la trouve quand même assez intéressante. Notamment dans sa manière d'exhumer un peu les sources idéologiques de la pensée de droite actuelle et qui remonte notamment aux thèses de l'Action française. Et dans cette un point important quand même d'appeler à la gauche à prendre garde au simple papa. Enfin au. On peut pas les renvoyer d'un revers de la main, ces intellectuels de droite. C'est-à-dire qu'ils sont évidemment méprisables, dangereux, nuisibles, mais faut pas oublier qu'ils sont pas tout à fait cons et surtout revanchards et malins. Et donc faut les prendre au sérieux et donc ça me semble un point important. Après un point de discussion peut-être. C'est vrai que c'est dans l'analyse qui est faite de. Je suis pas sûr qu'on peut parler d'un nouveau prolétariat à propos de la. On va dire des intellectuels précaires, tout ça. Là-dessus, pour un point, moi j'ai pas de position très arrêtée, mais pour un point un peu plus critique sur cette idée de précariat comme nouveau prolétariat, je renvoie aux analyses du sociologue Gérard Mauger. Et aussi sur cette question de la nouvelle classe patrimoniale qu'évoque Luc Boltanski ici. Moi, je sais pas, enfin pour le coup là-dessus aussi j'ai pas de position. Je trouve que des moments ici dans l'intervention, parce que dans le livre c'est un peu plus clair, j'ai l'impression que des moments il mélange un peu de plusieurs choses qu'on pourrait voir un peu différentes quand même. Quand il évoque à la fois le développement du tourisme, des festivals, et puis en même temps le livre de Piketty, qui s'appelait, d'ailleurs qu'il a pas mentionné, mais qui s'appelle Le Capital au XXIe siècle, et qui montre que, en deux mots, voilà, après un processus de salarisation des classes dominantes, aujourd'hui on est plutôt dans un processus inverse où les revenus patrimoniaux, plutôt que les salaires, pour les classes dominantes, ont tendance à exploser. Ouais, donc bon, ceci dit, le point important ici quand même, il est de rappeler, je crois, et là-dessus je suis entièrement d'accord avec Luc Boltanski, que le racisme, la progression du FN, on peut pas l'imputer uniquement à un électorat qui serait ouvrier, faiblement diplômé. Là-dessus je renvoie aussi à une émission qu'on avait faite à partir d'une intervention d'Annie Colleval. Et donc voilà, c'est ça aussi qui est important derrière cette idée de nouvelle classe patrimoniale. Je trouve le point aussi intéressant, et puis pour le coup moi j'ai pu l'expérimenter au moins sur un cas, c'est-à-dire cette idée que on est dans une progression d'une humeur conservatrice, identitaire, de repli, etc., et qui peut s'appuyer dans certains cas sur un ressort très très on pourrait dire cynique ou très pécunier, quoi, c'est-à-dire la valeur de la propriété, et donc on a peur que notre propriété soit affectée par la présence de populations stigmatisées, comme c'est souvent le cas d'ailleurs, enfin en termes purement économiques, hein. Et du coup ça génère effectivement ça peut être un ressort d'une forme de racisme ambiant, assumé, assez cynique, moi j'ai rien contre eux, mais en même temps s'ils viennent s'installer près de chez moi, ça fait diminuer la valeur de ma propriété, et si je veux revendre, vous comprenez, j'ai un prêt, machin, voilà. Donc bon, du coup aussi, ce qui m'intéresse derrière ce point-là, c'est qu'on voit bien, je crois, comment en fait ça c'était un point souvent défendu par Éric Fassin, qu'on a entendu il y a deux semaines, comment une politique de droite amène à une diffusion, d'une humeur de droite, quoi. C'est-à-dire que si ça pose problème aussi sur la valeur économique des propriétés, la présence de populations stigmatisées, c'est aussi parce qu'on les stigmatise. Enfin, c'est d'abord, essentiellement parce qu'on les stigmatise. Et ça, justement, Fassin rappelait que on voit les Roms, par exemple, comme des gens déjà nomades, alors qu'en fait, s'ils sont nomades, avant tout, c'est parce qu'on les vire de là où ils sont. Et donc, ils sont obligés toujours de bouger. Et aussi s'associer à la saleté, etc. Effectivement, si on les stigmatise, si on ramasse pas les poubelles, et s'il n'y a pas un service public, etc., ils sont comme les autres. J'aimerais bien voir d'ailleurs dans les beaux quartiers, s'il n'y avait pas un ramassage de poubelles, comment ça serait en deux semaines. Comment une politique de droite qui stigmatise, renforce aussi ces logiques droitières. Et inversement, je pense que pour inverser la tendance, il pourrait y avoir aussi réfléchir à une politique de gauche, de socialisation de certains revenus, notamment si on réglait un peu le problème du logement qui fait que beaucoup de gens sont pris à la gorge par des prêts, des trucs comme ça, peut-être qu'on reprendrait un peu le sens du progressisme et on favoriserait un peu des idées plus progressistes chez les gens. Voilà, un peu le genre de réflexion, moi, que ça m'a amené d'écouter ça. Mais pas seulement, j'ai eu plein de réflexions, si je vous les donnais toutes. Et du coup, oui, ce que pointe un peu cette intervention de Boltanski et celle qu'on a écoutée il y a deux semaines de Fassin, c'est une tendance actuelle où on observe une sorte d'alliance qu'on pourrait dire contre nature entre une fraction des classes populaires et les classes dominantes, et notamment les classes économiquement dominantes plutôt que les classes à haut niveau de diplôme ou culturellement dominantes. Alliance qui s'appuie sur... pour partie, sur l'appui, il me semble, de ces fractions des classes populaires qu'on reconnaisse leur normalité. Nous, on est le vrai peuple, le bon peuple, qu'on est toujours oublié par cette gauche qui ne s'occupe que d'un faux peuple, les immigrés, les prostituées, les homosexuels, les jeunes précaires, etc. Et donc c'est ça qui c'est dans cet état idéologique, j'ai l'impression, qu'on se trouve actuellement et qui fait qu'une partie des classes populaires aussi se droitisent pour faire reconnaître leurs différences par rapport à des minorités stigmatisées, acquérir une dignité sociale en se démarquant des minorités les plus stigmatisées, qu'on reconnaisse leurs droits de propriété aussi sur le sol français. Des fois, il y a des réflexes comme ça qui me semblent très très diffus. Ah oui, mais on était là avant, et comme si, du coup, ils avaient un droit de propriété sur le sol français. logique qui amène bien sûr au diviser pour mieux régner, qui fait le jeu des classes dominantes. Qui verrouille l'ordre social, pour reprendre le titre d'un article de Serge Halimi là, dans le dernier Monde Diplo. Le FN verrouille l'ordre social. Je suis aussi, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, donc je ne vais pas m'arrêter très longtemps, mais tout à fait d'accord avec l'analyse qui est faite du rôle du stigmate de Bobo dans ce retournement droitier des fractions des classes populaires. Hein. C'est un rôle vraiment, je trouve, central et très stratégique, cet usage du terme Bobo qui va renvoyer en fait... qui est un fantasme, qui va disqualifier toute tentative de contestation et de vie alternative comme une caractéristique de bourgeois. Et du coup, les vrais bourgeois, eux, les familles Le Pen et compagnie, ils peuvent apparaître comme populaires. Donc une sorte de retournement assez absurde où des gens qui vivent dans une forme de précarité, etc., apparaissent comme des bourgeois, et les vrais bourgeois se donnent une image d'appartenant au bon peuple. Et donc, au final, je crois que l'intérêt de cette conférence, c'est de montrer comment la bataille du vocabulaire, aujourd'hui, elle est importante. Ce qu'il appelle une sorte de toilettage, ou en tout cas de vigilance du vocabulaire importante. En même temps, bien sûr que cette conférence, elle pose plus de questions qu'elle n'en résout, enfin, en termes de qu'est-ce qu'on fait, hein, là-dessus, il n'y a pas forcément de réponses très claires au-delà du fait qu'il faut faire de l'agite propre pour rediffuser des conceptions du monde social déjà plus vraies et ensuite plus progressistes, qui servent plus à une vision progressiste du monde. Il y a d'autres soucis, mais il y a d'autres points de discussion aussi qu'on pourrait voir là dans cette intervention, notamment quand Boltaski évoque des thèmes comme l'enracinement, la communauté, etc., qui se diffuseraient aussi à gauche et qui effectivement participent d'une droitisation aussi de gens qui étaient plutôt traditionnellement à gauche. C'est vrai que là-dessus, bien sûr que le thème de l'enracinement est un problème, là-dessus j'ai envie de dire, alors je sais plus c'était quel auteur de BD qui, en mettant en scène une dame, disait les racines c'est bon pour les ficus, et nous on n'est pas des ficus. Voilà, donc ça me semble un point essentiel. Après, c'est plutôt sur la question de la communauté, qui a envoyé peut-être un peu vite là à une thématique de droite extrême. Il faut garder en tête qu'il y a une acception internationaliste possible de la communauté. Moi, je ne suis pas forcément totalement dans cette ligne, mais je pense notamment au thème du livre « À nos amis », de ceux qui avaient écrit « L'insurrection qui vient », dans la continuité d'un peu des critiques situationnistes des années 60, contre un mode de vie séparé, routinier, dominé par la marchandise. Et voilà, il y a un thème quand même chez eux présent de la communauté qui me semble être quand même assez progressiste dans la manière dont ils l'utilisent. Et je pense que voilà, on peut aussi produire un contre-discours en reprenant parfois des thèmes à première vue proches, mais en montrant comment, en insistant sur le fait que les réponses qu'on apporte sont bien différentes de celles que l'extrême droite, et que celles qu'apporte l'extrême droite sont un milieu des vrais problèmes en fait, et que c'est un détournement, un retournement qui s'opère. Voilà quelques petites réflexions que je vous donne comme ça, c'est cadeau. Je m'arrête là parce qu'il reste 7 minutes et j'ai envie d'en profiter pour passer un petit peu de musique. Et en l'occurrence, je vais vous passer Mischief Brew avec le titre Nomads Revolt.
Go down, throw rocks at the river, curses at the parade. Wedge stone in the gears of the clockworks, try to keep us from acting our age. Swore we'd carry on like this forever, till the free spirits bled. But now can you believe who's a mother, and that so-and-so's cut off their dreads. Kill off Columbus, and turn the world around. After all, the nomads are settling down. Used to give most of the bread to a landlord, leave the crust for the squats. Now the death wages we pay the bankers seem to kill all the flies in one swat. Hear the wedding band strike up a number, dear, they're playing a song. Hold your breath, cause we're gonna go under, getting a little one singing along. Kill off Columbus. change, said he'd never grow. He'd stay always on a roll, run beside the trains, past the mossy stones. Now there's more hope than ever, and it's all falling down, and the rebels are running for mayor in your hometown. Dropping their anchors, falling into the sea. And I've stopped throwing rocks at the river. Now you'll find me a swimming upstream. There is power in unions of ramblers that got nothing to own. But there's more in one fist swinging mother, swearing my children shall never be sold. Kill off Columbus and turn the world around after all. Nomads are settling down. Kill off Columbus and turn the world around after all. The nomads are settling down after all. The nomads are settling down. Out of the garden we multiply, telling our stories. May all the old ways die.
Et on enchaîne tout de suite avec Sax Rince et Pig Brag Clack. Voilà, donc c'était Sax Rince à l'instant avec un titre, j'ai déjà rangé mon papier, je suis pressé de partir, donc du coup je peux pas vous redire le titre. Et je vous laisse avec les copains et les copines de la causerie et on se retrouve, j'ai envie de dire que c'est, tout ça est très très aléatoire, donc on va dire dans deux semaines, mais voilà. Allez, à bientôt, bonne soirée, salut.
Parmi les leurs des écrans, je cherche l'angle mort, le vrai bug, le faux raccord, l'entraînement. l'anti-mouchard, l'antidote, l'anticorps, la doublure, le doublon, canoncier dans le double fond, le faux fuyant, le mirage, dans lequel les chiens de garde n'apercevront que leur image, le plus parfait des parfaits, camouflage, le trompe-l'œil et puis